Le quart d'heure des spécialistes.
On entre dans le dernier quart d'heure des Tsars du ballon rond, celui réservé aux spécialistes qui nous proposent donc leur regard d'experts du football. Et aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur Kaliningrad, théâtre de la rencontre suisse-serbie que nous allons largement évoquer avec notre invité Gérard Castella. Bonjour.
Oui, bonsoir.
Mais avant de se plonger dans ce match suisse-serbie, notre piquant Jérôme Moutet vous tire le portrait.
« 243 jours à cette année qui n'était pas bissextile. Vous êtes né le même jour qu'Édouard Balladur, mais lui 24 ans plus tôt. Vous êtes né le même jour, Gérard Castella, que la mort de Léonard, non pas Thur, mais de Vinci, mais lui 434 ans avant. Mais vous êtes surtout né, et on comprendra pourquoi plus tard, le jour du couronnement du roi Hussein de Jordanie, qui a su faire de vous, et de son pays plutôt, un îlot de stabilité. À 29 ans, vous débutez votre carrière d'entraîneur après avoir stoppé celle de joueur, alors que Peter Passmandy, l'entraîneur de Lausanne à l'époque, ne vous faisait plus une totale confiance. Vous devenez alors, comme la Jordanie, un îlot de stabilité. Une phrase qui vous va à merveille, car en tant qu'entraîneur, vous avez su rester fidèle à un seul club, Étoile Carouge. Ah non, il y a eu Merin, Servette, Saint-Gall, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi qui vous croyais fidèle. Fidèle, oui, mais vous êtes un peu comme les hirondelles. Vous partez, mais vous finissez toujours par revenir. J'en veux pour preuve votre parcours d'entraîneur, que l'on pourrait qualifier d'entraîneur yo-yo. Étoile Carouge, puis Merin, puis re-Étoile Carouge, puis re-Merin, puis Servette, puis re-re-Étoile Carouge, puis Saint-Gall, Lausanne Sport, Neuchâtel-Xamax, puis enfin re-Servette. Et justement, c'est avec Servette que vous terminez champion suisse en 1999. Bravo! Champion avec Servette, ça fait rêver. Entre 2003 et 2006, vous coachez 90 fois le Lausanne Sport pour 61 victoires, 13 nuls et seulement 16 défaites. 16 défaites en 90 matchs pour Lausanne, ça nous paraît être un autre temps. En 2007, vous remportez aussi la Challenge League avec Xamax, qui depuis était devenu Xanax jusqu'à leur retour en grâce. Vous êtes surnommé Monsieur Promotion, puis vous arrivez à l'Association Suisse de Football comme entraîneur des M18, puis des M19. Une ascension irrésistible vers quoi? Évidemment vers l'équipe suisse de foot, que vous n'entraînerez jamais, en tout cas pas pour l'instant, et vous préférez quitter l'ASF. Mais pour aller où? Où peut-on être mieux qu'à l'ASF et être grassement payé pour coacher 10 matchs par année? Le 1er juillet 2017, vous quittez donc votre poste d'entraîneur de l'équipe suisse M19 pour rejoindre, comme responsable de la formation, les Young Boys de Berne, qui n'ont plus rien gagné depuis 32 ans. Mais pourquoi ce choix, Gérard? Vous étiez à une année de la retraite, engagé à l'ASF, mais non! Mais quelle erreur! Mais là, une année après votre engagement aux Young Boys, le titre de champion suisse revient dans ce club. Et c'est là que l'on se souvient que vous êtes né le même jour que le couronnement du roi Hussein de Jordanie. Car, Gérard, les Young Boys ont attendu votre arrivée avant d'être couronné le roi. C'est donc vous. On se souviendra de vous comme étant un entraîneur que l'on appelait Monsieur Promotion. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Mais on se souviendra de vous aussi comme étant une personne qui aime s'effacer pour faire briller les autres. D'ailleurs, les jeunes joueurs d'IB en sont la preuve vivante. Alors, ne nous parlez pas de retraite à 65 ans, car le football suisse a encore besoin de vous. Et pour tout cela, on vous dit bravo et merci Gérard.
Mais Gérard Castella, une petite réaction sur ce portrait signé Jérôme Moutet?
Ouais, c'est super. C'est vite dit, c'est bien dit. Non, ça fait plaisir. Et puis c'est vrai, je ne suis pas encore à la retraite puisque j'ai prolongé mon contrat à Young Boys encore d'une année. Et puis après on verra. Mais en tout cas, depuis le temps que je joue au foot, je joue toujours avec le même plaisir et la même passion. Et ça, c'est ça qui compte.
Parlons tout de suite de ce duel Suisse-Serbie, un match qui s'annonce très compliqué pour notre équipe nationale.
Ben naturellement, parce qu'en plus de ça, le Brésil, ils ont gagné cet après-midi. On a un point, les Serbes en ont trois. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut absolument c'est pas le perdre, hein, ce match contre la Serbie. Autrement, on serait en immense difficulté, voire même presque éliminé si on a perdu ce soir. Donc c'est un match, naturellement, au niveau des émotions, qui va être très, 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 très dur à gérer.
La Serbie a un peu compté sur d'excellents joueurs offensifs avec Mitrovic, Tadic, Ljajic et surtout Milinkovic-Savic qui a éclaté cette saison en Italie avec la Lazio. C'est l'une des clés de ce match, maîtriser ses joueurs et les tenir les plus éloignés possible des 16 mètres suisses?
Oui, mais il ne faudra pas seulement défendre aujourd'hui. Hein. Je pense que ça, si on a très bien défendu contre le Brésil, c'était vraiment important contre le Brésil de bien défendre parce qu'on sait aussi leur potentiel de centre offensif. Mais aujourd'hui, il faudra non seulement bien défendre, mais aussi être capable d'aller mettre le danger dans le, dans le camp des Serbes, parce que je pense que c'est important qu'on en arrive à marquer, un but aujourd'hui. Ça c'est important de mener au score contre cette équipe de Serbie pour les faire sortir un petit peu de leur système défensif.
Et puis Gérard Castella, on imagine que comme lors de la rencontre contre le Brésil, hein, Valon Berami, qui s'était chargé de faire déjouer Neymar, aura un rôle très important dans cette partie avec un probable nouveau duel prometteur, mais cette fois-ci avec Milinkovic-Savic.
Oui, Berami, il était énorme hein, contre le Brésil. Il a fait un match fantastique. Je pense que c'est le meilleur match qu'il a fait en équipe nationale depuis le temps qu'il y joue. Il faudra qu'il répète ce genre de performance, mais je pense qu'il aura besoin surtout de ses coéquipiers. Hein. Je pense notamment à Granit Xhaka, il faudra qu'il hausse un petit peu son niveau par rapport au match du Brésil. Il faudra qu'aussi la défense elle tienne bien la route avec Akanji qui était aussi très très bon contre le Brésil. Mais il faut qu'on marque des goals. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait défaut un petit peu ces derniers temps, c'est que sur le plan offensif, si on se crée des occasions, on ne la met pas au fond. Ça, c'est un petit peu le problème.
Il faudra aussi peut-être beaucoup se méfier hein, des balles arrêtées. Les Serbes sont grands et très habiles sur coup franc. Hein. On témoigne de la petite merveille de Kolarov contre le Costa Rica.
Oui, Kolarov, on le connaît, il a une frappe d'enfer, il a un pied gauche magnifique, il est capable de marquer des buts à très longue distance. C'est clair que les balles arrêtées peuvent être aussi importantes, il faut être très attentif sur ses coups francs, sur ses corners, être très concentré. Mais la Suisse, à mon avis, elle est assez bien organisée sur les balles arrêtées. Mais nous, par contre, on peut être dangereux sur balles arrêtées. Du reste, la preuve, on a marqué sur balles arrêtées contre le Brésil.
Il va aussi falloir peut-être faire davantage le jeu que contre le Brésil. Ça peut être un handicap pour l'équipe de Suisse, à votre avis ?
Bon, on est plus à l'aise que lorsqu'on est un petit peu outsider, lorsque l'équipe adverse est à la possession du ballon. C'est vrai qu'on est un petit peu plus à l'aise. Mais bon, c'est clair qu'aujourd'hui, si on a la prétention d'aller en huitième de finale du championnat du monde, on se doit d'être capable d'aller de faire les deux. Hein, c'est-à-dire d'être très très bon dans la phase défensive et d'être efficace dans la phase offensive. Mais moi, je pense que ça va se jouer beaucoup sur les transitions. C'est-à-dire l'équipe qui va mieux transiter dans les deux phases, elle a des fortes chances de faire un bon résultat.
On peut penser que le sélectionneur suisse, hein, Vladimir Petkovic, va reconduire le même 11 de base que contre le Brésil, mais il va peut-être effectuer des changements un peu plus tôt dans le match. C'est aussi votre avis ?
Oui, c'est clair qu'il y a la fatigue du premier match, hein, c'est clair, il y a un peu c'est normal qu'à mon avis qu'il va repartir avec la même équipe, il était content de la performance collective, il était content individuellement des joueurs, c'est assez logique qu'il reparte avec la même formation s'il n'y a pas de blessés. Par contre, c'est vrai qu'avec le deuxième match qui arrive, il va pouvoir faire un tout petit peu plus tourner l'effectif, c'est-à-dire il va faire des changements un tout petit peu plus rapides certainement que lors du premier match pour amener un peu de fraîcheur, parce que je pense que c'est ça qui va faire aussi la différence, les joueurs qui viennent du banc, qui peuvent apporter de la fraîcheur, je pense notamment à Gravanovic qui peut être un joueur très très important, ou bien Mbolo dans la dernière demi-heure du match pour justement mettre un petit peu de vivacité, d'explosivité dans cette équipe.
Justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer, alors on sait hein, Vladimir Petkovic est un petit peu conservateur, mais pour ce genre de match où justement, vous l'avez dit, il va falloir aller marquer, de mettre peut-être un Gavranovic et puis un Brel Mbolo en lieu et place d'un Seferovic et un Zuber, vous c'est quelque chose qui vous parle ?
Non, mais moi je pense que Petkovic, il est dans la logique d'un coach qui est content de son équipe. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas mérité que Seferovic sorte de l'équipe. C'est clair, il n'a pas marqué. Hein, quand on a numéro 9 dans le dos, normalement on attend qu'il marque des buts, mais il est très important pour l'équipe, il est très important pour l'équilibre de l'équipe, il est très important dans le travail de sap qu'il fait pour ses coéquipiers. Il se dépense beaucoup, il est très utile à l'équipe, et je pense que Petkovic, il compte aussi là-dessus pour user un petit peu la défense serbe avec Seferovic. Et puis lorsqu'à un moment donné, quand il sentira le coup de mettre de la vivacité avec Gravanovic, qui est plus un petit peu plus malin, on va dire, dans la surface, qui est plus buteur que Seferovic, qui peut à ce moment-là finir le travail. Et Gravanovic aura de la fraîcheur par rapport à peut-être à une défense serbe peut-être un petit peu plus lourde et qui sera peut-être un petit peu plus fatigué.
Et puis le fait de connaître le score du match Brésil-Costa Rica, on rappelle hein, de victoire des Brésiliens 2-0, est-ce que ça peut aussi avoir une influence ce soir, mentalement ?
Bon, non, je pense que de toute façon, quel que soit le résultat des Brésiliens, les Suisses ne peuvent pas se permettre de perdre le match. ce soir. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Il faut qu'ils abordent le match avec leurs idées, avec leurs principes, avec leur philosophie, et surtout dans le même état d'esprit, la même mentalité qu'ils ont abordé contre le Brésil, avec cette fois-ci encore plus d'envie de gagner le match. Ils ne jouent pas contre le Brésil ce soir, ils jouent contre une équipe qui, à mon avis, qui est à leur portée, pour autant qu'ils refassent une performance collective comme ils l'ont fait contre le Brésil.
On a l'impression que si la Suisse parvient à se qualifier et sortir de ce groupe difficile, hein, elle a vraiment un bon coup à jouer dans cette Coupe du Monde, surtout qu'il n'est plus forcément évident qu'en cas de qualification, il y aura un Suisse-Allemagne en huitième.
Non, mais je pense de toute façon, je pense qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est si on va déjà en huitième de finale, pour moi c'est déjà super, parce que sortir de ce groupe, c'est pas simple, avec justement la Serbie, le Brésil, le Costa Rica, il faut absolument sortir de ce groupe. Après il vient l'Allemagne, il y a une autre équipe, peu importe, c'est pas mais moi je pense que déjà d'être en huitième de finale, c'est déjà bien pour l'équipe suisse.
Et est-ce que la Suisse peut aller loin sans avoir un grand buteur?
Bon, ça c'est difficile, il faut quand même marquer des goals, mais aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, il y a les milieux de terrain qui sont capables de marquer, les joueurs extérieurs comme Zuber ou bien ça, Shaqiri également, et puis on a des défenseurs qui de temps en temps ils marquent, parce qu'on a vu que Ricardo Rodriguez il a marqué lors des matchs de préparation. Non, ben c'est clair que c'est quand même mieux d'avoir un buteur, d'avoir des joueurs qui sont capables de marquer. On a un petit peu d'un problème, il faut le dire, un petit peu un problème offensif. Mais moi, je pense qu'on est capable de marquer autrement avec d'autres joueurs, avec beaucoup de joueurs qui peuvent marquer. Et voilà. Mais du reste, dans le championnat du monde, il n'y a pas beaucoup, à part Ronaldo qui était très, très, très efficace. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont des vrais buteurs. Hein.
J'aimerais à présent revenir avec vous sur le match d'hier soir et la cinglante défaite 3-0 des Argentins contre la Croatie. L'Argentine éliminée dès le premier tour et la Croatie dans le dernier carré de la compétition. Plausible selon vous?
Bon, l'Argentine, c'est clair, pour moi, c'est pas une équipe. C'est pas une équipe. Ils ont beaucoup de problèmes aussi sur le plan tactique. Ils savent pas trop où ils vont. Ils changent beaucoup de formation d'équipe. Ils ont les derniers 13 matchs, je crois qu'ils ont changé 13 fois de formation. Il n'y a pas un schéma de jeu clair. Pour moi, ils comptent beaucoup trop sur Messi. Et puis Messi, actuellement, il est pas flamboyant. Il a pas de volume. On dirait qu'il a pas trop envie de jouer. Et puis ça se ressent sur toute l'équipe. Il y a pas un collectif qui se dégage. Pour moi, ça ne serait pas une surprise qu'aujourd'hui l'Argentine se fasse éliminer, bien qu'ils soient encore en vie avant la dernière journée. Et c'est clair que l'Argentine, c'est une grande déception de ce mondial pour l'instant.
Et la Croatie, une belle surprise?
Oui, alors la Croatie, pour moi, c'est une très très bonne équipe. On voit, ils sont bien ensemble, ils sont bien soudés, ils ont un collectif très très fort, puis ils ont un milieu de terrain avec Rakitic et puis Modric qui est de très haut niveau, qui sont capables avec Mandzukic devant, ils ont des joueurs de très intéressants, mais surtout des joueurs qui se mettent au service de l'équipe. Ça, c'est le plus important pour gagner un championnat du monde ou gagner un championnat tout court. C'est pas un joueur, il peut faire gagner de temps en temps un match, mais une équipe, elle fait gagner le championnat.
Gérard Castella, la grande nouveauté de ce mondial, c'est l'utilisation de l'arbitrage vidéo. Vous en êtes convaincu?
Moi, je pense que c'est bon. Je découvre un peu comme tout le monde. Simplement, moi, ça me plaît parce qu'il y a quand même beaucoup de situations qui ont été rectifiées dans le bon sens du terme pour amener de la justice. Et pour moi, tant qu'on peut éviter les erreurs, diminuer le nombre d'erreurs, pour moi, c'est toujours bien. Maintenant, il faut qu'elles soient. Elle soit utilisée à bon escient, puis il faut que ce soit surtout rapide.
De manière peut-être plus globale, comment vous jugez ce début de Coupe du Monde?
Disons, au niveau de la qualité des matchs, je suis un tout petit peu déçu. J'ai eu un grand match, c'était Espagne-Portugal. Après, j'ai vu des petits bouts de matchs qui n'étaient pas trop mal, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a beaucoup, il y a pas beaucoup de buts, je pense, déjà. À part quelques exceptions. Et puis, c'est pas pour l'instant des matchs très spectaculaires. Donc, j'espère qu'avec les huitièmes de finale, on va se diriger vers des matchs un petit peu plus, avec beaucoup plus de spectacles, beaucoup plus de buts et surtout un petit peu plus spectaculaires. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu d'immenses matchs comme le match, par exemple, Espagne-Portugal.
Selon vous, c'est un nivellement par le haut ou par le bas auquel on assiste jusqu'ici?
Bon, aujourd'hui, les équipes, c'est tactiquement, elles sont tellement bien organisées, même les petites nations, entre guillemets, on voit bien, hein, le Costa Rica, il pose des problèmes jusqu'à la 90e minute au Brésil, l'Iran, il pose des problèmes à l'Espagne, parce que ils sont bien tactiquement, ils sont bien physiquement également, ils ont peut-être moins d'individualité, mais ils sont bien organisés, et puis ils jouent très très bas, Il joue très très bas, ça veut dire qu'il faut, il faut vraiment être très 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 fort techniquement et pas faire d'erreur technique dans, le, dans les derniers 30 mètres pour pouvoir se créer des occasions. Et ça, c'est la, le plus difficile au football, c'est marquer des buts, hein, ça, on le sait bien. Donc, contre une équipe qui est tellement bien organisée et puis qui laisse très très peu d'espace à l'adversaire, c'est pas facile de, d'éliminer la, un joueur et encore moins facile d'éliminer tout un bloc défensif.
Gérard Castella, merci d'avoir passé ce quart d'heure des spécialistes en notre compagnie. On vous souhaite une belle suite de Coupe du Monde.
Je vous en prie, merci beaucoup. Bonne soirée.
Le quart d'heure des spécialistes.